C'est pour toi que je l'ai tué. Pour ton arrivée, je te mitonne un civet.
Et moi, je suis flexitarienne.
Flexita quoi?
Flexitarienne. C'est-à-dire que je suis végétarienne,
ouais.
Mais je peux aussi manger de la viande ou du poisson.
Vous êtes normal, quoi.
Ouais, à peu près.
Déjà, c'est pas la remplacer complètement. On va s'éloigner de ces formats où on va faire une grosse partie de viande dans l'assiette. C'est vraiment par là que le changement se passe, en consommant moins et en mangeant plus diversifié.
On parle de règles de bien-être animal à appliquer dans des lieux où on va les buter. C'est bâtard!
Qu'est-ce que tu veux? On fait pas d'omelette sans casser d'œufs? T'aimes ça les œufs?
Ah, il adore ça, hein?
Eh ben là, pas c'est pareil, il saute pas tout seul dans la casserole.
Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur le plateau dont on va déguster. Qui d'entre nous, moi le premier, ne se sent pas aujourd'hui devant son assiette, assailli de questions et de doutes sur sa relation à la viande? Il faut dire que l'actualité nous offre quelques raisons de freiner ou de stopper sur les protéines carnées, entre les dégâts écologiques de l'élevage intensif, les cas de maltraitance dans les abattoirs, le nouveau discours diététique qui promeut les protéines végétales. Et puis, il y a cette question centrale, du bien-être animal. Elle est partout cette question dans le débat public, à l'Assemblée nationale, au Sénat et même dans le débat présidentiel. Il nous est donc apparu intéressant de convoquer cette question du bien-être animal à l'heure où elle s'invite aussi, depuis quelques mois, dans nos pâturages, avec l'expérimentation de nouvelles solutions d'abattage à la ferme. Va-t-on vers plus de respect envers les animaux que nous élevons? Pour le dire autrement, existe-t-il une viande heureuse qu'on pourrait manger, la conscience tranquille? C'est à ces questions brûlantes qu'on va tenter de répondre avec nos deux invités, EES, deux Émilie, qui ont le même prénom, qui n'ont pas forcément les mêmes convictions, c'est ce que l'on va voir. On va déguster, c'est du partage, mais aussi du débat. Émilie Janin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes éleveuse de vaches charolaises en agriculture biologique, avec votre frère, à la ferme de Lignières, c'est bien ça?
C'est bien ça.
Dans quel village?
À Berizot.
Vous êtes dans le département de la Côte d'Or.
C'est ça, oui.
Et dans votre ferme extensive, eh ben, le bien-être animal, ça passe aussi par un abattoir mobile dont vous êtes la pionnière. Vous l'expérimentez depuis cet été. Vous allez nous raconter ce projet innovant et ses implications éthiques. Émilie Dardenne, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes maîtresse de conférence à l'université Rennes 2, responsable pédagogique du diplôme d'université Animaux et Société. Et vous avez d'ailleurs publié en 2020 Introduction aux études animales aux presses universitaires de France. Quel regard la chercheuse que vous êtes porte sur cette question du bien-être animal? Vous allez avoir tout le loisir de vous exprimer. Pour mettre son grain de sel dans le débat, évidemment, on ne pouvait pas faire ce débat sans lui. C'est Arnaud Daguin, bonjour.
Et bonjour.
Vous êtes chroniqueur dont on va déguster, tout le monde le sait, mais vous êtes également porte-parole et cofondateur d'une association que je vous laisse citer.
Qui s'appelle Pour une agriculture du vivant.
Et vous avez bien des choses à dire.
Je porte ces deux casquettes aujourd'hui.
Absolument. En qualité de militant associatif, entre guillemets, et de chroniqueur, vous allez vous exprimer sur le bien-être animal. Et puis, je suis très heureux de recevoir également Elvira Masson. Bonjour.
Bonjour à toutes et tous.
Vous êtes chroniqueuse dont on va déguster. Nos auditeurs le savent bien également. Mais c'est l'autrice culinaire que je reçois aujourd'hui. Votre premier livre de cuisine est là. Dans mes mains, ma cuisine aux éditions Marabout. Il est beau, il est tout chaud. Vous allez nous le faire déguster dans un instant.
Avec joie.
Dans nos assiettes.
C'est un honneur.
La plaque de cuisson est à vos côtés.
Ouais, elle commence à chauffer.
Bon, alors vous verrez qu'il y a plein de recettes que connaissent bien les auditeurs et les auditrices de France Inter. Tous les contenus de notre émission, nos podcasts, nos recettes, nos meilleures adresses sont à retrouver sur franceinter.fr à la page. On va déguster.
France Inter, on va déguster avec François-Régis Gaudry.
Quand on essaie de faire la meilleure vente possible, on fait attention à plein de critères, notamment le choix de nos animaux, qu'ils soient d'une race adaptée à notre terroir. On fait attention à l'alimentation. Donc moi, je pars du principe que les vaches sont des herbivores et donc la base de leur alimentation, ça doit être de l'herbe. Ça tombe bien parce qu'avec de l'herbe, elles vont avoir une viande avec un meilleur goût, un gras qui aura plus de saveur. Plus les animaux sont dociles, calmes, moins ils vont stresser facilement et plus la viande va être tendre. Il y a la qualité de l'abattage. Et le dernier critère, ça va être la qualité de la maturation et de la découpe. Et donc sur ces 5 critères, il y en a un qui nous échappe depuis longtemps. Bah, c'est la qualité de l'abattage sans stress.
Émilie Janin, on vient de vous entendre dans cet extrait de La Ferme d'Émilie, un film de Nathalie Lay, disponible sur YouTube, qui raconte que le bien-être animal, c'est une démarche globale à la ferme. Mais c'est aussi la question compliquée de l'abattage. Eh bien, ça y est, après 50 batailles politiques, administratives et financières, un drôle d'engin, genre poids lourd, suivi de plusieurs remorques, est arrivé dans votre ferme biologique de Bourgogne, où vous élevez avec votre frère des bovins, hein,
race... des vaches charolaises.
C'est ça. Mmh. Et c'est tout simplement le premier abattoir mobile de France. Vous êtes la pionnière de cette expérimentation qui vise à améliorer les conditions d'abattage des animaux à la ferme sur leur lieu de vie. Mmh. Comment est née cette idée révolutionnaire?
Ben en fait, un matin, j'emmenais mes animaux à l'abattoir d'Autun, comme d'habitude, donc avec cette boule au ventre. Et puis, un ami qui m'accompagnait, donc qui s'appelle Franck Ribière,
m'a parlé... Nous l'avons reçu hein, dans cette émission, voilà. Pour ses différents documentaires sur la viande.
C'est lui qui m'a parlé d'un abattoir mobile en Suède, et je lui ai dit, ben écoute, je vois pas du tout comment ça peut être possible pour des bovins, et avec les normes européennes qui existent, etc. Et donc, 15 jours après, on était en Suède. Parce que voilà, c'est comme ça que ça se passe dans certaines réalités. Et en fait, quand j'ai vu l'abattoir mobile en Suède, j'ai dit mais enfin c'est incroyable quoi. Pourquoi on n'avait pas pensé à ça plus tôt? C'est effectivement mettre plein de technologies d'aujourd'hui dans des camions pour rendre mobiles tous les équipements nécessaires pour respecter les normes sanitaires et déplacer du coup les équipements vers les animaux et non plus déplacer les animaux. Et donc dans l'avion du retour, moi en fait il m'a dit qu'est-ce que t'en penses? Je lui dis bah écoute c'est simple, j'ai jamais eu cette boule au ventre que j'éprouve tout le temps en France à chaque fois que je vais dans un abattoir. Et donc moi, je ne peux plus élever des animaux. Si c'est pour reprendre cette boule au ventre tous les 15 jours, à chaque fois j'y retourne.
Dites-nous en un mot pourquoi il y avait cette boule au ventre. Évidemment, on touche de près la réalité de ces abattoirs industriels. On a vu des images, des vidéos, notamment par les lanceurs d'alerte de L214 qui circulent.
C'est beaucoup parce que c'est de l'opacité en fait. On est souvent habilité éleveur quand on dépose nos animaux à les déposer justement. Mais après, on ne peut pas accéder au moment forcément de mise à mort, etc. Et donc, voilà, il y a une certaine opacité. Et donc, du coup, c'est ce sentiment d'être vraiment dépossédé de sa dernière ultime étape, de savoir comment ça va se passer, d'être sûr que ça va être fait dans le calme simplement et dans le respect de l'animal. Alors pour moi c'est pas mon cas, mais il y a aussi pour beaucoup d'éleveurs de pas savoir du tout non plus dans quel abattoir leurs animaux vont partir et vont être abattus. Et certains animaux font quand même de grandes distances en France. Ouais.
L'abattage industriel c'est une réalité aujourd'hui avec des chiffres, Émilie Dardenne, qu'on peut qualifier d'assez effrayant. Hein. On tue globalement 1 milliard d'animaux par an pour notre alimentation, et c'est surtout la centralisation de ces abattoirs qui implique que pour faire tuer ces animaux, alors il y a les bovins mais également toutes les autres espèces, et bien les distances entre le lieu de vie de ces animaux et leur lieu d'abattage s'agrandit considérablement avec ce que ça génère comme mal-être ou comme maltraitance. Et puis ensuite, dans l'opacité comme vous dites de ces abattoirs, ce qui peut se passer avec des réalités parfois sordides.
Oui, alors c'est vrai que ça induit des grandes distances pour les animaux. Et puis, ce qu'il faut voir sur le volume d'animaux que ça représente, c'est que forcément, c'est désindividualisé. On parlait des bovins, donc c'est les bovins, c'est 4 millions abattus en France chaque année. Mmh. C'est une toute petite part, en fait, hein, 4 millions par rapport aux milliards, plus d'un milliard.
C'est vrai que ça fait très peu. Donc le reste, c'est beaucoup de volailles aussi.
Ce sont des oiseaux, mm-hmm. Ouais, des volailles, ce qu'on appelle les volailles, essentiellement des poulets de chair, mais aussi des pintades, des canards, etc. Donc l'abattage des bovins, c'est une toute petite part par rapport à cette immense part de représentée par les volailles. Et effectivement, il y a eu une concentration géographique des abattoirs dans certaines zones, dans certaines régions, ce qui induit pour les animaux de très longs transports. Et dans d'autres pays, c'est encore bien pire. Par exemple, en Chine, qui est un immense pays, les animaux doivent être transportés sur des temps extrêmement longs, à tel point qu'ils perdent du poids pendant les transports, tellement c'est stressant. Et ils sont abreuvés de force à l'arrivée, pour reprendre leur poids de départ. Donc voilà ce que ça induit, l'organisation industrielle à grande échelle, en termes d'abattage pour les animaux, de transport, de stress, de faim, de soif.
Il y a un chiffre très éloquent. Au début des années 70, en France, 1200 abattoirs de boucherie. En 2003, 400. On réduit par 3. Et aujourd'hui, ou à peu près, 2018, 268. Autant dire qu'il y a une concentration des abattoirs qui fait qu'on est obligé de parcourir des distances absolument considérables. Et ça implique aussi, évidemment, des cadences infernales de 80 bêtes abattues par heure, 500 à 800 bêtes abattues chaque jour dans certains abattoirs. Vous vouliez éviter, évidemment, cette case. Racontez-nous comment, avec votre abattoir mobile, eh bien, désormais, ça se passe.
L'abattoir mobile, c'est un ensemble donc du coup de 3 camions assez gros. Donc il y en a une, c'est une partie vraiment abattoir en tant que telle, et un autre, la partie sociale, les vestiaires, etc. pour les jeunes qui travaillent à l'intérieur, et puis un autre camion qui sert de frigo pour essuyer les carcasses, et ensuite on a tout ce qui va servir à l'intendance, on va dire, et puis la gestion des déchets. Mais nous, par exemple, depuis qu'on a démarré, on est à 3 animaux en moyenne abattus par ferme, et les journées où on a abattu, entre guillemets, le plus d'animaux, on a fait 5 animaux.
Voilà, donc c'est tout petit en termes d'échelle et on met une heure par animal et c'est un animal ensuite l'autre parce que voilà, on travaille dans un espace très très réduit. Notre objectif c'est pas d'en faire beaucoup mais c'est de faire très très bien et c'est de venir en fait quelque part sublimer le travail des éleveurs parce que du coup le travail qui a été mis en œuvre pour produire de l'alimentation de qualité, eh bien on doit le respecter jusqu'au bout, y compris dans l'abattage.
Parce que comme vous le disiez effectivement, c'est une démarche globale, hein, élevage extrêmement extensif, c'est l'alimentation de vos races. Il y a même pas de finition aux céréales, je crois, elles sont uniquement à l'herbe, vos vaches, on peut les qualifier d'heureuses.
Elles ont l'air plutôt heureuses, ouais.
Ouais, jusqu'au jour où, évidemment, arrive leur mise à mort. Et là, en l'occurrence, ce moment, comment est-il organisé techniquement? Pardon, mais racontez-nous.
Ouais, on est obligé de planifier un peu notre tournée d'abattoir sur les fermes avec qui on travaille. Donc, on a une planification qui est faite, là, jusqu'à Noël. Donc, l'abattoir s'installe, il y en a à peu près pour 1h30, 2h sur la ferme, le temps que les camions s'agencent avec, on a 5 opérateurs qui travaillent à, justement, les disposer correctement. Puis, en fait, quand ils sont prêts, que le vétérinaire sanitaire est OK, les éleveurs apportent les animaux. Donc moi, en l'occurrence, pour le premier jour où on était sur ma ferme, ben, une fois qu'ils étaient prêts, qu'ils m'ont donné le go, je suis partie dans le pré avec ma chienne Border Collie pour chercher un lot. Et donc on est monté à pied, on a fait quoi, 500 mètres à pied. Et puis je les ai mis dans un petit parc d'attente et voilà, il y en a une qui est rentrée dans l'abattoir. Je sais pas, il s'est passé peut-être 5 secondes entre le moment où elle a quitté ses congénères dans le lot et le moment où elle a été assommée à l'intérieur de l'abattoir.
Donc elle est assommée?
Elles sont toutes assommées, c'est notre façon de faire. Et ensuite, elles sont saignées et ensuite voilà, mises en carcasse comme dans n'importe quel abattoir. Sauf qu'on est dans un espace plus réduit puisque c'est dans un camion.
Je crois que la mise en service date est toute récente. Hein,
ah oui, c'était le 25 août le premier.
Vous aviez la boule au ventre de ne pas savoir ce qui se passait dans l'abattoir où vous emmeniez vos bêtes. Est-ce que là, vous aviez la boule au ventre de devoir regarder sous vos yeux mourir vos bêtes?
Non, pas du tout. C'est assez troublant. Alors j'avais du stress, hein, parce que c'était quand même la mise en coûte d'un truc que j'avais imaginé pendant 5 ans quand même, pour lequel je me suis pas mal battue. Et du coup, il y avait quand même l'envie que ça se passe bien. Mais non, en fait, ce qui était assez magique, entre guillemets, c'était que effectivement, les animaux sont venus très calmement depuis le pré. Voilà, elles sont rentrées naturellement en traversant le camion. L'opérateur, moi j'y tenais absolument à être là quand il avait posé ce geste de l'assommer avec le matador. Et voilà, elle s'est affalée instantanément, il n'y a pas eu la moindre réaction d'appréhension ou quoi que ce soit sur l'animal. Quoi. Et donc du coup, j'ai pu assister en regardant et en me disant waouh, ça a été fait avec des gestes très professionnels, dans le calme, et l'animal n'a pas eu un moment de panique.
Et les congénères de la vache qui attendent.
Ils n'ont rien entendu.
Souvent, c'est le choc, c'est des animaux sociaux.
Alors, elles ne le voient pas visuellement, ce qui se passe. Les odeurs et les effluents, il n'y en a pas. Donc, du coup, elles ne le sentent pas, quoi. Et bon, après, on ne s'amuse pas à les faire poireauter par plaisir juste à côté de l'abattoir, quoi. On les amène une par une pour qu'elles rentrent dedans. Mais voilà, ouais, l'idée c'est de restreindre le plus possible la séparation du lot de l'animal, quoi.
C'est ça. Émilie Dardenne, on sent bien que le pouvoir public s'empare de cette question de bien-être animal et notamment ces solutions d'abattage alternatif pour tourner le dos aux excès et aux dérives de l'abattage intensif. La loi Egalim d'ailleurs sur l'agriculture et l'alimentation, c'est elle promulguée en 2018 qui a autorisé ces expérimentations d'abattage mobile. Que pensez-vous de ces solutions d'abattage fermier? Est-ce que vous y voyez une évolution positive?
Mais d'abord, je parle dans le cadre des études animales que j'essaie de développer à l'université. Et dans les études animales, ce qu'on fait, c'est qu'on s'intéresse aux relations qu'on a avec les autres animaux. On s'intéresse aux représentations des autres animaux dans la culture, le langage, etc. Le grand absent des échanges sur la question animale, les abattoirs, le bien-être animal, souvent ce sont les animaux eux-mêmes. Si on se place du point de vue des animaux tués, est-ce que l'abattoir mobile peut être une bonne chose pour eux? Alors bien sûr, il est moins anxiogène en termes de transport, bien sûr, il est moins, il évite un long transport, il permet aux animaux de mourir dans leur environnement, mais tout de même, ça se termine mal pour eux. Ils sont abattus, je ne sais pas à quel âge sont abattues ces vaches, mais souvent c'est à un âge beaucoup plus précoce qu'un âge de mort naturelle. Donc disons que d'un certain point de vue welfariste, c'est-à-dire en prise en compte du bien-être de l'animal tant qu'il est vivant, bien sûr que c'est un progrès par rapport à ce qui se passe dans les abattoirs industriels, hein. En cela, on peut se rejoindre, mais du point de vue de la volonté des animaux, parce qu'on a des moyens de connaître la volonté des animaux, de connaître leurs préférences positives et négatives, on sait qu'ils veulent continuer à vivre.
Pour vous, ce ne peut être qu'une phase transitoire vers du toujours moins de viande, voire l'idée de bannir toute protéine animale de son alimentation.
Du point de vue des animaux, oui, bien sûr. Mais le point de vue des animaux n'est pas le seul. On a évidemment le point de vue des éleveurs et des éleveuses qui portent une grande responsabilité, certainement une trop grande responsabilité pour ce qui se passe, souvent pointer du doigt parce qu'ils font la sale besogne, mais en fait, il y a aussi le point de vue des consommateurs et des consommatrices. Et ce point de vue-là, il est essentiel pour comprendre le nombre de personnes qui continuent de manger de la viande ou qui arrêtent de manger de la viande, et comment on peut engager une transition dans ce contexte-là où on a en France, en fait... peu de végétariens, de végétariennes et de véganes, 2% contre 24% de flexitariens et de flexitariennes.
Émilie Janin, la question du bien-être animal, je sais que c'est une expression qui est courante dans le débat public, qui est dans la bouche de tous les politiques, qui est même dans le travail législatif de nos parlementaires. Il faut s'entendre sur cette définition de bien-être animal. Vous avez tendance à vous méfier de cette expression.
Au départ, je l'utilisais quand je me suis intéressée un peu au sujet, au moment du début des travaux sur l'abattoir mobile. Et en fait, c'est un peu présomptueux de parler, je trouve, de bien-être animal parce que ça inclurait qu'on pourrait se mettre à la place de l'animal et pouvoir penser à sa place, y compris pouvoir imaginer ce que c'est que son point de vue. Et donc, du coup, je pense plutôt qu'il faudrait parler plutôt de bien-traitance animale, dans le sens où on parle des actions qu'on est capable de mettre en œuvre pour garantir un certain nombre de choses, donc concrètes. Parler de bien-être animal, pour moi, c'est plus possible, dans le sens où je ne peux pas estimer que je puisse me mettre à la place d'un animal. J'ai des projections en tant qu'humaine sur ce que pourrait penser un animal, mais...
Vous avez aussi de l'empathie vis-à-vis de vos
animaux. Ah oui, ça n'empêche pas l'empathie.
Parce qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui nous demandent, il y a cette question qu'on doit vous poser peut-être 17 fois par jour, pardon de la poser à mon tour, c'est peut-on aimer une bête que l'on destine à faire mourir?
Oui, la réponse est oui. Et il n'y a pas de dissonance cognitive là-dedans, il n'y a pas de problème. C'est juste la vie, quoi. Et juste une réponse, c'est que oui, on aime nos animaux, et c'est justement parce qu'on les aime qu'on a envie que leur mort se passe bien aussi. Et en fait, pour garder un certain nombre d'animaux, c'est ça qu'il faut bien avoir en tête, que ce soit au niveau de nos élevages individuellement, mais aussi à l'échelle mondiale et nationale, etc. Pour pouvoir maintenir de l'élevage et la présence d'animaux à nos côtés dans notre société, il faut qu'on ait aussi une partie qui puisse en être utilisée pour... effectivement ramener un revenu, une activité économique sur le territoire, etc. Donc oui, on peut effectivement dire on les aime et en même temps vouloir une belle mort. La dernière chose, c'est simplement faut arrêter d'imaginer qu'une mort naturelle va être sans douleur et sans souffrance. Oui. C'est pas vrai.
C'est-à-dire ?
Il y a des morts naturelles qui sont absolument atroces de souffrance.
Les vieux chevaux, si on les laisse mourir de vieillesse, ils meurent pas de vieillesse, ils meurent de faim, ils n'ont plus de dents.
Peuvent plus manger.
Et puis moi, je voudrais juste dire un truc. On parle beaucoup de la mort de ces animaux, on ne parle jamais de leur naissance. Or, ces animaux, on les produit. Il faut qu'on l'assume à un moment donné. Ce ne pas des animaux naturels. Une vache, c'est un auroch il y a 25 000 ans. Donc entre l'auroch d'il y a 25 000 ans et la vache que vous tuez, il y a tout un chemin que nous avons fait, nous les humains.
Et ça, selon vous, donne à l'être humain, ça leur donne un droit de mort sur ces animaux qui sont leur création ?
C'est un devoir. Si on se met en position de faire naître, donc de produire du vivant, il faut l'assumer complètement. Et on l'assume jusqu'à la mort du dit vivant. Ou alors on ne le fait pas. Mais dans ces cas-là, il n'y a plus de vaches. Du tout. Et je voudrais juste ajouter un truc, c'est qu'aujourd'hui, dans l'agriculture qu'on imagine pour demain, et qu'on imagine capable de nous sortir un petit peu du merdier dans lequel on est, et de nous amener vers un futur à peu près équilibré à tous et souhaitable, je vois mal comment on peut se passer dans l'agriculture de la présence de l'animal. Et c'est quand même compliqué avec tout ce qu'on exporte d'un sol qui fait pousser des trucs, de ne pas accepter l'aide de ces polygastriques, notamment ces animaux qui où une bactérie rentre par la bouche, il y en a un million qui sort par par le trou de balle, et c'est ce million de bactéries qui fait qu'on peut faire une agriculture qui va bien aujourd'hui, si on veut surtout se débarrasser de l'azote minéral, enfin de la dépendance au pétrole, etc., etc.
Émilie Dardenne.
Mais je voulais réagir aussi sur la question de l'amour naturel, mais on parle d'animaux qu'on fait naître pour les élever, pour les manger. Donc si on arrête de les élever, on n'a pas la question de la mort naturelle, ne se pose pas.
La finalité pour vous, soyons clairs, c'est un futur sans viande.
Du point de vue des animaux, je ne vois pas en quoi ça peut être profitable pour eux qu'on soit dans un système qui les marchandise et qui se les approprie. Parce qu'on est dans un système de propriété où on a donc même si ces animaux sont bien traités, enfin je mets pas ça en cause, ils sont bien traités de leur vivant, à la fin on décide à quel moment ils meurent et comment ils meurent. et ils meurent pour être dégustés par nous, alors que les progrès de la nutrition ont montré qu'on peut très bien se passer de viande. Mmh.
On est obligé de faire une petite pause dans ce débat, on va le poursuivre dans un instant, et voir d'ailleurs quelles sont, enfin, commencer à échafauder les alternatives possibles à l'absence de viande dans notre régime, mais on va faire une petite pause très heureuse à la console, Laurent Thomas, Pierre-Yves de Rolin, Nadia Chougui et Marion Philippe pour la préparation de cette émission. Je parle d'une pause heureuse car Elvira Masson s'apprête à faire chauffer sa poêle sur la plaque de cuisson qui est à sa gauche. Il va y avoir, chère Elvira, des protéines animales, mais un tout petit peu, mais il y aura quand même aussi une assiette entièrement végétale parce qu'on est poli et qu'on aime bien accueillir nos invités. Émilie Dardenne, allez, un petit indice sur cette protéine animale.
C'est un fromage méditerranéen. Chypriote, plus précisément.
Chypriote.
Et commence par un H.
Et pour se mettre dans l'ambiance, et Djoubaka a tout spécialement choisi pour vous, monsieur Doumani. Un groupe chypriote, justement, vous allez voir que c'est entre rock psyché et fusion ethnique, avec un titre.
Mais je ne parle pas le chypriote.
Que je vous laisse prononcer parce que vous parlez couramment chypriote.
Alavrostichiotis.
C'est à peu près ça.
Bravo.
Ramasson, sur fond vert bouteille, mèche blonde sautillante, sourire gracieux, teint post-estival rayonnant, aussi vitaminé que la tranche d'orange qu'elle porte à son visage, et ce t-shirt arborant avec fierté ce slogan militant, Hummus with Pita. Voilà, je fais un peu mon Augustin Trapenard, vous avez remarqué.
C'est un peu mon cri de guerre.
C'est ça, c'est pour vous décrire, Elvira, non pas telle que vous êtes dans notre studio de France Inter, mais telle que vous êtes en couverture de votre premier livre de recettes, Dans ma cuisine, recettes de tous les jours, simples et généreuses, inspirées de mes rencontres et de mes voyages, c'est aux éditions Marabout. Il y a quand même 150 recettes. Vous n'avez pas chômé, hein?
Non, je n'ai pas chômé.
C'est un sacré boulot.
Oui, oui. Mais je voulais faire quelque chose qui représente un petit peu la manière dont ma cuisine s'exprime, donc qui peut partir un peu dans tous les sens, de tout près, qui peut aller plus loin. Et je me suis dit que plus il y en aurait, mieux ce serait.
Mentionnons d'emblée ces très belles photos, spontanées, oui, naturelles. à votre image, j'ai envie de dire.
Oh, c'est gentil.
Signé du photographe.
Pierre Lucet Pénateau.
Il a fait un très beau travail.
Un super travail. Tout a été photographié en lumière naturelle, ce qui n'était pas toujours simple quand on photographiait ça dans ma petite cuisine minuscule au mois de novembre. Mais je trouve qu'il s'en sort vraiment très gracieusement et joliment, et que c'est son traitement photographique est simple, un peu comme mes recettes qui sont vraiment simples.
Sur papier, un peu brillant.
Un peu brillant.
Et effectivement, ouais. Vos recettes sont simples. On va en parler. On va dire que vous êtes familière et votre cuisine, elle est déjà connue des auditeurs et des auditrices de France Inter, puisque ça fait désormais, en qualité de chroniqueuse historique, 10 ans, 10 saisons que vous nous fournissez certaines de vos recettes. Alors commençons évidemment par cette marotte sur laquelle je vous charrie très souvent, puis en même temps c'est une allusion effectivement à ce t-shirt Hummus Wispita, le fameux pois chiche. Je m'attendais à une orgie de pois chiche à toutes les pages, vous avez été assez raisonnable.
Et vous êtes déçu en fait.
Il y a quand même du hummus.
Il y a du hummus, il y a une soupe que j'adore qui n'est pas de moi parce qu'il y a pas mal d'emprunts dans ce livre, ou plutôt peut-être des hommages. Mm-hmm. Je m'inspire de personnes dont le travail me marque, et notamment cette cuisinière qui s'appelle Perla Servan-Schreiber, mm-hmm. qui signe des livres de recettes, et elle fait une soupe géniale qu'elle appelle gazpacho de pois chiche, c'est pas facile à dire,
ouais.
que j'ai un tout petit peu arrangé à ma sauce avec du pois chiche, du yaourt, de la pulpe de tomate, du céleri, de l'oignon. Moi, j'y mets un petit trait de vinaigre de Xérès. J'ai un condiment pois chiche citron confit. Je mets des pois chiches dans une recette de coque. Il y en a, mais effectivement, j'ai un peu muselé ma
passion. Raisonnablement, et ça correspond à cet univers végétal que vous aimez. On en revient tout naturellement au thème du jour. Alors essayons de régler cette question de votre rapport à la viande. On peut le qualifier d'assez raisonnable. Vous êtes très penché sur le végétal, ça se sent à chacune de vos pages. Et la viande, qui est là, par endroit, joue plus le rôle un peu de garniture ou d'accompagnement du végétal.
C'est ça, il y a des vraies recettes carnées. Il y a un poulet à l'estragon que je vous dois d'ailleurs, François-Régis. C'est la recette de la mère d'Anne-Sophie Pic que vous faites et que je vous ai donc volée. Encore un emprunt. J'ai un curry japonais, des kefta, un mafé de bœuf, un filet de bœuf gravlax à la suédoise. Mais pour le reste, c'est vrai que la protéine animale vient un peu ponctuer des recettes très fondées sur les légumes, les légumineuses, l'œuf un petit peu, pas mal de fromage, pas mal de yaourt. Donc j'ai un rapport complètement raisonné, raisonnable, et j'essaye d'acheter de la viande chez des bouchers dont je sais que le travail est vertueux, qui se fournissent auprès d'éleveurs qui travaillent bien, et des bouchers qui peuvent acheter des carcasses entières. C'est important aussi dans le travail de boucherie, c'est un savoir-faire qui s'est perdu.
Cuisine à penchant végétal, cuisine également simple, très modeste. Techniquement, on pourrait la qualifier de low-tech. Il y a très peu d'ustensiles nécessaires. D'ailleurs, il y a des techniques qui parlent évidemment et qui rappelleront des souvenirs à ceux qui nous écoutent. Les sardines en boîte de Mitsuko, hyper simple à faire. La pizza à la poêle, ça c'est même quand on n'a pas de four. Quand on est un étudiant dans une studette de 12 mètres carrés avec une plaque de cuisson, on peut faire une pizza avec
C'était
une poêle.
C'était mon passe-temps préféré pendant le premier confinement. Il m'a été enseigné par Maeva, qui tient la fabuleuse pizzeria que Arnaud connaît par cœur. Je me rappelle qu'à chaque fois qu'il vient,
la marseillaise de Arnaud Daguerre.
Et elle m'a appris cette pizza, pizza de système D que l'on faisait historiquement à Naples quand on se débrouillait, on avait sa pâte à la maison.
Une tôle chaude, avec un peu de feu dessous.
Et on allait éventuellement la finir auprès du four voisin. Recette toute simple.
Les œufs marinés, sauce soja évidemment. Alors là, on va
voir. Je crois que les auditeurs en ont peut-être un peu ras-le-bol.
Un œuf de poule.
Un jaune d'œuf.
Qui est cuit dans
par le sel de la sauce soja. C'est-à-dire qu'on le laisse tremper 2 heures si on veut un œuf encore très mou, 4 heures, 5 heures, 6 heures, 12 heures, 20 heures, 3 jours, si on veut une texture particulièrement
si on veut jouer
poutargue.
La pétanque avec, c'est 15 jours.
Et ça va avec tout, c'est un bol de riz, des poireaux, enfin c'est très très versatile en plus.
Et il y a un paradoxe dans votre cuisine, c'est qu'elle est, on l'a dit, très modeste techniquement, avec assez peu d'ingrédients, et en même temps elle est totalement sans frontières, ouverte au monde. Elle est nourrie par une curiosité insatiable qui est bien la vôtre. Alors on retrouve évidemment les petites influences scandinaves de votre maman, votre prisme énorme pour la cuisine anglo-saxonne, et notamment tout ce qui est baking, c'est-à-dire la boulange, la pâtisserie de maison. La Méditerranée, très très forte dans votre univers. L'Asie aussi, par endroits. Il y a même aussi une moqueca de poisson pour évoquer le Brésil. Enfin vraiment, vous tapez dans tous les sens.
C'est vrai qu'il y a plein de pays où je ne suis pas allée, où je n'ai pas mis les pieds, et j'ai l'impression qu'en farfouillant, en tirant les fils d'une recette, je lis beaucoup de choses qui concernent les cuisines du monde entier, en tirant le fil des aubergines afghanes à la tomate et aux oignons et à l'ail
c'est une recette géniale qui s'appelle Banjan Borani. J'ai l'impression d'aller un peu en Afghanistan. J'ai l'impression de... Je voyage un peu à bord d'une recette. Et c'est vrai que je passe beaucoup de temps à farfouiller. Donc
à farfouiller.
Je farfouille pour mes chroniques aussi, en fait. Je farfouille parce que j'ai besoin de farfouiller pour pouvoir nourrir les sujets que j'ai envie d'évoquer dans l'émission. Et comme je farfouille, je tombe sur une recette, je la teste et elle finit dans mon bouquin. Tout infuse un petit peu tout.
Moi, je garde un super souvenir du coucou Sabzi. On est du côté de la Perse, de l'Iran.
C'est une omelette aux herbes. C'est plutôt beaucoup d'herbes liées par de l'œuf.
Un peu comme une frittata.
Mais vraiment très 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 chargée en herbes, avec évidemment beaucoup d'aneth, parce qu'en Iran, on cuisine beaucoup l'aneth. On peut y mettre des petites baies un peu acidulées, comme de l'épine vinette, mais très très compliquée à trouver, donc on peut mettre pourquoi pas des érelles ou de la canneberge. C'est vraiment plein d'herbes liées par un peu d'œuf et un tout petit peu de farine, et ça cuit au four.
C'est un 150 gâteau. Recettes, très simple. Je me suis régalé à chaque pas, je dis pas ça parce que c'est la copine Elvira et que c'est la chroniqueuse, mais vraiment, vraiment, ce livre est hautement réjouissant. En plus d'être un très bel objet. Racontez-moi en un mot ce que vous avez dans votre assiette.
Ce qu'on mange là, c'est très très bon. D'abord, j'adore les choux de Bruxelles, donc ça tombe très bien. C'est la première fois que je les mange accompagnés avec des agrumes et des noix. Et je trouve ça absolument formidable. Si le reste est à l'avenant dans le bouquin, courez-y, ça vaut vraiment le coup.
Merci beaucoup.
Émilie Dardenne.
Oui, je confirme. C'est super.
C'est bon.
Émilie Dardenne a la version donc sans protéines animales, donc sans raloumi, et vous tous, vous avez le raloumi qui est un fromage assez génial, donc il n'y a pas un goût dingue.
Oui, il n'est pas franchement nécessaire là sur le coup.
Ah oui.
Il ajoute quelque chose en texture, c'est vrai.
Il a cette texture géniale.
Il a ce petit côté,
un peu squinch.
Mais très sincèrement, là, le plat lui-même sans ce fromage, il est déjà très très bon, quoi. Enfin, moi, je mange ça volontiers comme ça.
Une petite poêlée rapide de choux de Bruxelles. Avec des noix, quelques quartiers d'orange.
Noix pécan, ça pourrait être des noix.
Et ces tranches d'aloumi, qui est ce fromage chypriote à faire griller. Et on obtient cette délicieuse recette, dont on peut retrouver la recette sur franceinter.fr, à la page On va déguster. C'est hallucinant le nombre de recettes que vous avez faites pour cette émission. Et on vous retrouve en fin d'émission pour une petite page sucrée. Vous en pensez quoi?
Avec plaisir.
Un petit indice.
Ça ressemble un peu à un crumble, mais c'est pas un crumble.
Voilà, résultat des jeux, tout à l'heure. Existe-t-il une viande heureuse? On poursuit le débat sur le plateau dont on va déguster.
Au pays du charolais, de la volaille de Bresse, mais aussi des élevages industriels, les Français ont-ils changé leurs habitudes alimentaires?
Vous mangez moins de viande?
Oui, beaucoup moins. Moi, je me rappelle, quand j'étais jeune, il fallait manger de la viande tous les jours pour être en bonne santé. Maintenant, on peut manger autre chose.
C'est pas un choix de goût alimentaire, parce qu'on aimait la viande en goût, mais voilà, c'est un choix éthique de changer de mode de consommation.
Mais les flexitariens, ceux qui réduisent leur consommation de viande, sont de plus en plus nombreux. Cela concerne un tiers des Français.
On sent bien, depuis quelques années, d'ailleurs on a peut-être un peu de mal à dater la chose, que notre relation aux animaux d'élevage et aux animaux en général est un peu en train d'évoluer, Émilie Dardenne notamment, avec des sentiments ambivalents ou paradoxaux. D'un côté, on a l'impression qu'il y a plus d'empathie envers les animaux, comme en témoignent d'ailleurs nos réactions indignées face aux vidéos d'abattoirs révélées par l'association L214. Il y a une baisse aussi générale de la viande qui tendrait à prouver qu'on s'intéresse à la question de l'origine de la viande qu'il y a dans son assiette quand on décide de continuer à en manger, et au contraire des stratégies d'évitement, de gens qui veulent pas du tout aborder la question, qui mettent un peu un voile pudique sur leur steak, sur leur bidoche. Vous êtes d'accord pour dire qu'il y a une évolution de nos sentiments?
Oui, bien sûr, le paysage se complexifie. Et ce que je voulais souligner aussi aujourd'hui, c'est que c'est pas juste une question morale. Hein. On parle de carnivorisme éthique, viande heureuse. Tout à l'heure, on a utilisé le terme vertueux plusieurs fois. Alors, on pourrait discuter de est-ce que c'est vertueux
ou si tu la vertu.
Mais il y a plein d'autres choses dans la question du débat autour de l'alimentation. Mm-hmm. Et il y a la question des normes sociales qui me semble sous-évaluée quand on aborde ces questions-là.
Qu'est-ce que vous voulez dire par là?
C'est-à-dire qu'il suffit pas forcément d'être choqué par des images d'abattage ou d'élevage atroce, ce qu'on voit de temps en temps grâce au travail des lanceurs d'alerte. Il y a aussi le poids des habitudes, le poids de...
Des traditions, on peut oser le mot?
Bien sûr, c'est pas...
Qui sont pas si vieilles que ça pour la plupart, en ce qui concerne...
Arnaud Daguin.
Rappelez-vous qu'au début du XXe siècle, pour dire qu'on gagne sa vie, on dit gagner son pain. Dans les années 60, le virage est passé, on dit gagner son beefsteak. Donc c'est arrivé là, c'est la deuxième moitié du XXe siècle qui signe cette espèce d'emballement de la production animale et la consommation qui va avec. Donc c'est pas si vieux, hein. C'est quelque chose, à mon avis, le balancier est juste en train de redescendre tranquillement et on espère qu'il va trouver sa juste place.
Effectivement, c'est pas si vieux. Alors la domestication, sur le temps très long, la domestication des animaux de rente pour la consommation humaine, c'est dans l'histoire de notre espèce, c'est tout récent, hein. L'espèce humaine de 150 000 ans, Homo sapiens, c'est la domestication, ça a commencé pour les animaux de rente, hein, ça a commencé il y a à peu près 10 000 ans avant notre ère.
Un petit 15 000, on va dire.
Les 15 000, c'est les chiens. C'est les plus anciens.
Non, là, les chiens, on y remontait beaucoup. La Juventin, il dit carrément beaucoup, beaucoup plus tôt, là, hein, pour les chiens, les loups.
Hein. En tout cas, pour les bovins, les ovins, les caprins.
C'est le moteur, surtout, dont on avait besoin, je crois, à un moment donné. L'animal a servi beaucoup de moteur.
En tout cas, sur le temps plus court, c'est à partir du 19e siècle que les choses s'accélèrent énormément pour l'élevage et pour l'abattage. Juste quelques chiffres, hein, pour pas assommer les auditeurs et les auditrices, mais au début du 19e, en France, on consomme à peu près 19 kilos de viande par an, et on est passé à 94 kilos à la fin du XXe siècle.
1998, donc, hein, c'est ça?
98.
Ah oui, donc c'est fois 5, j'ai pas une calculette en tête,
deux
mais
siècles.
Voilà,
fois
5. Oui, mais il faut remarquer une chose, c'est que au début du XIXe siècle, la consommation de viande est extrêmement inégale socialement. Et ça depuis des siècles.
Il y avait ceux qui en mangeaient beaucoup et ceux qui n'en mangeaient pas du tout.
Et ils en mouraient, ceux qui en mangeaient beaucoup. Hein. Le gros évêque qui avait la goutte, lui...
Il mangeait trop de gibier
et du turbo au beurre blanc, il en mourait facilement.
Mais toujours est-il que ces chiffres moyens, effectivement, c'était différent. Début du 19e siècle,
absolument.
19 kilos par an, 94 kilos à la fin du 20e siècle. Et aujourd'hui, alors, on dit toujours, on n'arrête pas d'entendre dans cette espèce de discours ambiant qu'on mange moins de viande. Qu'en est-il vraiment?
Alors,
en France,
la consommation de certains animaux a baissé, notamment les mammifères, mais la consommation de viande d'oiseaux continue d'être élevée. Il y a un repli de la consommation carnée à partir du début du 21e siècle, mais ce que je voulais souligner à propos de cette formidable accélération de la consommation de viande au 19e et au 20e, c'est qu'est-ce que ça induit pour les animaux et qu'est-ce que ça induit pour les systèmes de production. Ça induit une... bien sûr, une augmentation du nombre d'animaux élevés, une formidable augmentation. Et ça induit aussi un accent qui est mis sur la productivité des corps. Et c'est les débuts de la zootechnie. La zootechnie, c'est le fait d'utiliser les animaux comme des machines. Et c'est le début de l'élevage industriel qui aujourd'hui, on le voit, arrive à une sorte de crise, de paroxysme. On se rend compte qu'on a besoin d'en sortir, non seulement pour des raisons éthiques, mais aussi pour des raisons sanitaires, pour des raisons environnementales et climatiques.
Donc là, il y a un point de convergence entre les deux Émilie. C'est les excès et les dérives de l'élevage et donc de l'abattage intensif. On est d'accord là-dessus, Émilie Janin. Est-ce que pour vous, finalement, manger moins de viande et en manger mieux, qui est un peu le slogan finalement que vous brandissez, est-ce que c'est la juste position entre ceux qui continuent à manger de la viande de façon totalement immodérée, quitte à participer à ce système d'élevage intensif, et ceux qui ont décidé de tourner totalement le dos aux protéines carnées et qui prônent le zéro viande, les véganes ou les antispécistes? Est-ce que vous vous sentez finalement au milieu?
Ah oui, plutôt, c'est-à-dire que la production animale intensive, je tendance à pas vouloir appeler ça volontairement des élevages, mais plutôt des unités de production animale, hein, parce que tellement ça a été intensifié.
Oui, il y a une logique industrielle.
Ont amené voilà ce mouvement extrémiste d'antispéciste et abolitionniste d'élevage, mais entre un monde avec des productions industrielles et un monde sans animaux du tout, enfin voilà, il y a, je pense, une voie du milieu. Ça dérange énormément quand on parle de ça, parce qu'effectivement, bah oui, on a des systèmes qui peuvent être entre deux, donc du coup, c'est pas blanc et c'est pas noir. Il y a des nuances de gris, et oui, il peut y avoir des systèmes qui sont effectivement vertueux. Parce que qu'est-ce qu'on constate quand on regarde, par exemple, la carte de France des pollutions en eau? On se rend compte que les ressources en eau, les moins polluées, c'est là où on a de l'élevage pastoral, quoi. Donc l'élevage, c'est aussi une façon de préserver les ressources en eau, parce que c'est des zones où on va pas utiliser de pesticides. C'est des zones aussi où on a des paysages où on adore aller en vacances, comme par hasard, quand même, hein. On rêve pas tous d'aller dans la Beauce, là où il y a du colza blé orge en vacances. Non, on va plutôt dans le Massif central, en montagne, enfin dans toutes les zones d'élevage, parce que les paysages sont sympas, c'est joli. Puis voilà. L'élevage a plein de vertus. Il faut effectivement aller sur du moins mais mieux. Et les chiffres, faut arrêter de vouloir aussi, certaines fois, trop les globaliser. Effectivement, quand on parle de, il y a trop de consommation de viande, on mélange souvent effectivement viande rouge et viande blanche. souvent les viandes blanches sont quand même, c'est celles qu'on a le plus massifiées et industrialisées, donc c'est là-dessus qu'il y a des gros problèmes de pollution, de santé humaine et de santé animale aussi. Et effectivement, là, mais c'est la grosse dérive de la mondialisation et de l'industrialisation qu'il faut remettre en cause. Si on veut mieux manger dans nos assiettes, ben il y a un gros travail politique à faire, parce que en fait, on peut faire ce choix-là aussi.
Je souscris complètement.
Eh bien, Arnaud Daguin a la parole, vous allez la garder justement, puisque, cher Arnaud, souvenez-vous, je vous rafraîchis la mémoire, le 12 avril 2020, nous consacrions une émission au moment de Pâques. C'était une Pâques confinée à l'agneau. Ses traditions et sa symbolique dans les trois religions monothéistes, avec l'historien Pascal Horry. Et Roland, un auditeur, était passé à l'antenne pour témoigner en nous expliquant qu'il avait renoncé à manger de l'agneau depuis 20 ans. Arnaud Daguin, un an et demi après, vous teniez à répondre à Roland.
France Inter. On va déguster.
Cher monsieur Pascal. Et oui, cher Roland, permettez-moi de vous baptiser monsieur Pascal, vous qui nous appelâtes un dimanche de Pâques pour nous relater la voix émue, une bucolique anecdote. Celle de votre rencontre galloise avec un irrésistible agneau. Un agnelet dont l'espièglerie sonna le glas de votre goût pour le méchoui. Au détour d'un sentier gaélique, vous fûtes bouleversé, oui, bouleversé par ce bébé mouton qui vous fit en caracolant un brin de conduite sur la lande caillouteuse. Ah, vous lamentâtes-vous, comment peut-on dévorer sans scrupule tant d'innocence frisée, même frottée d'ail et garnie de flageolets ? Oui, comment justifier pareil sacrilège ? Eh bien, monsieur Pascal, je vous le confesse, moi aussi, après 40 ans de cuisine, face à l'agneau gracieux, je reste bouche bée. Et oui, je vous l'avoue, un petit veau m'émeut. Un caneton m'embouche un coin, et même un jeune crapaud me laisse quoi ? Moi aussi, telle une Marie-Antoinette barbue, j'eusse aimé bichonner les agneaux comme autant de chihuahuas. Alors, cher monsieur Pascal, je vous le dis tout net, oui, ce petit agneau est trop choupiné. Mais s'il existe, cet agneau, si vous pûtes profiter de sa joliesse bondissante sur votre sentier de randonnée, c'est justement parce que nous le mangeons. Et oui, s'il est là et bien vivant, cet animal tout frisoté, c'est parce que nous le voulons mort. Sinon, il n'existerait même pas. Sa présence parmi nous, celle de son frère et de tous les siens, est le fruit de sélection, d'apprivoisement et d'une culture pastorale millénaire. Monsieur Pascal, si ce petit agneau ressemble à ce qu'il est aujourd'hui, c'est parce que nous le voulûmes tel, avec sa laine qui changea nos civilisations, avec son gigot, sa selle et son carré, qui garnirent des siècles de tables dominicales. Et si nous le mangeons tout bébé, c'est parce que nous avons besoin du lait de sa mère pour faire ce fameux fromage de brebis qui fait la gloire de vos casse-croûtes, monsieur Pascal. Nous sommes, voyez-vous, collectivement responsables de l'existence de tous nos animaux domestiques. Savez-vous que les bêtes d'élevage sont aujourd'hui bien plus nombreuses sur le sol de la terre que leurs cousines sauvages ? Nous sommes donc responsables de leur vie et de leur mort. Ce droit de vie et de mort, nous nous l'arrogeâmes il y a déjà longtemps, et ni vous ni moi n'y pouvons grand-chose. Ce que nous pouvons, en revanche, je dirais même ce que nous devons, c'est d'assurer aux bêtes que nous produisons à tire-larigot une vie éthologiquement convenable et une mort rapide et sans stress. Un agneau sacrifié sur son lieu de vie et non pas trimballé tout bêlant vers son lointain échafaud offrira une viande délicieuse car dépourvue des toxines générées par la peur et la souffrance. Alors, monsieur Pascal, une fois la certitude acquise que ce petit être exquis n'a subi nulle violence, peut-être replongerez-vous l'âme en paix dans les plaisirs de sa chair. Remanger une côtelette, une épaule, une souris, un navarin, une moussaka. Aurez-vous un jour à nouveau ces pensées, Pascal ? J'en fais le pari.
Émilie Dardenne, merci beaucoup Arnaud Daguin pour ce coup de lame. Évidemment, vous avez une réaction face à ce qui vient d'être dit. Est-ce que le poids des traditions, la culture pastorale millénaire, la richesse de notre patrimoine gastronomique en général et français en particulier, le goût de la viande aussi, pour lequel l'être humain peut avoir une certaine, ou a surtout une certaine appétence, peut-être dans son cerveau reptilien, est-ce que ça c'est un mur auquel vos études animales peuvent se heurter ?
Oui, bien sûr, mais je crois pas que l'agneau offre sa chair. Il ne décide pas d'offrir sa chair, on décide de prendre sa chair. C'est pas du tout la même chose. Et autre petit commentaire, vous disiez, nous avons besoin du lait de sa mère. Avons-nous vraiment besoin du lait de sa mère? Non,
ah, c'est une vaste question.
On n'a pas vraiment besoin du lait de sa mère. On a envie. C'est pas du tout la même chose d'avoir envie et d'avoir besoin. Aujourd'hui, on n'a plus besoin de manger les animaux.
On voit bien à quelle question...
Je vais juste réagir à ça, en fait, parce que je boue un peu, mais c'est juste que, en fait, toutes ces pensées ou ces réflexions, enfin là, on se les pose, mais parce qu'on est dans une société de riches, en fait, où on peut s'acheter des compléments alimentaires en pharmacie, au coin de la rue, etc. Mais il y a tout un tas de peuples et de gens à travers cette planète qui n'ont pas accès aux protéines animales, que ce soit en lait, de chèvre, de brebis, de vache, et qui ont accès à de la viande très, très exceptionnellement. Et quand ils y ont accès, bah, ils sont un petit peu moins malnutris quand même, les enfants. Donc c'est juste qu'il faut qu'on remette un peu les choses en perspective, parce qu'effectivement, peut-être qu'on en mange beaucoup, beaucoup trop dans des pays riches et surindustrialisés. Par contre, il y a des pays où ça leur ferait quand même vachement de bien et seraient en meilleure santé s'ils pouvaient accéder quand même à de la protéine animale.
En France, aujourd'hui, on n'a pas besoin de manger des types de nourriture très concentrés. Contrairement à ce qui se passe dans d'autres pays, de moins en moins, et contrairement à ce qui a pu se passer par le passé, et à nos ancêtres, à un moment donné, se sont mis à manger davantage de viande. Effectivement. Aujourd'hui, c'est plus le cas. En France, en 2021, ça n'est plus le cas. On peut avoir une alimentation végétarienne parfaitement équilibrée, sans apport extérieur, et une alimentation végétarienne avec une supplémentation en vitamine B12, sachant que, par ailleurs, on prend plein de types de supplémentations directes ou indirectes quand on est omnivore également.
Là, je vous propose de prendre une petite dose de fruits dans un instant pour conclure cette émission, même si de toute façon, évidemment, j'ai pas envie de dire que tous les avis sont dans la nature, mais on ne pourra pas clore ce débat définitivement. En tout cas, on peut donner la parole à Catherine qui met son grain de sel dans le débat. Oui, je parle de Catherine, le chanteur.
Poulet numéro 728120, poulet de Vendée, élevé en plein air 89 jours et 90 nuits. Parmi 380 autres poulets, alimenté avec 75% de céréales, décembre 1998 à l'abattoir de Saint-Fulgent. Électrocuté, vidé, déplumé, lavé, conditionné, labellisé le poulet. Le 11 décembre 1998, je l'ai acheté 52 francs 55 chez le boucher chauve rue de la Bastille. Je l'ai mangé, chaud le midi, froid le soir, avec une bouteille de vin rouge. Je l'ai adoré, le poulet. Mon poulet, numéro 728120. Je t'aime, je pense à toi.
Existe-t-il une viande heureuse? C'est le menu dont on va déguster en ce dimanche. On n'a pas tout à fait, on peut pas répondre définitivement à cette question. En revanche, il existe peut-être bien des fruits heureux sur le plateau dont on va déguster. Ça, c'est une certitude. Car si l'on regarde le chapitre sucré du nouveau livre de recettes d'Elvira Masson, Dans ma cuisine, recettes de tous les jours, simples et généreuses, inspirées de mes rencontres et de mes voyages, c'est aux éditions Marabout, vous confirmez votre statut de bec sucré, Elvira.
J'avoue.
Avec des influences de partout.
Oui. J'aime beaucoup faire des gâteaux. C'est vrai que c'est une pratique de, comme vous disiez tout à l'heure, de baking, de gâteaux faits maison. On a toujours un peu le four allumé dans les pays anglo-saxons et dans les pays scandinaves. Et c'est vrai que j'aime bien. C'est des gâteaux très simples, hein, comme celui que je vous ai préparé là.
Et je regarde pas mal, effectivement, du côté des recettes familiales, des recettes américaines, anglaises.
Alors,
c'est un peu...
dans les recettes familiales, il y a page 282, juste pour déguster votre formidable accent suédois.
Hannas franska äppelkaka.
C'est magnifique.
C'est bien parce que c'est court en plus comme nom.
Mais non, il est très simple à faire, la photo est irrésistible et c'est un gâteau aux pommes, c'est votre madeleine d'enfance que vous cuisinez à votre maman. Oui. On salue Eva,
oui.
Qui est d'origine suédoise.
Qui est suédoise, qui est pas d'origine.
Oui, absolument, qui est suédoise. Et puis, il y a également évidemment un prisme anglo-saxon assez prononcé avec cette recette que vous nous avez préparée.
C'est un cobbler. Alors le cobbler, c'est vraiment un gâteau typiquement américain que l'on prépare plutôt l'été aux États-Unis avec des pêches. Le peach cobbler, c'est vraiment le gâteau des familles. On le mange notamment, enfin on le mange tout l'été aux États-Unis. Il est très bien avec plein d'autres fruits. Moi, dans le livre, je l'ai fait aux pêches. Il est super avec des reines claudes et des prunes, mais là, on touche vraiment trop à la fin. Donc, je voulais préparer aujourd'hui avec un mélange de poire, de coin et de figue.
Et de figue, ouais.
C'est bon, ça.
Très, très bon. Voilà. Très bon.
Le cobbler, c'est un appareil à crumble, c'est-à-dire c'est de la farine, du beurre et du sucre qu'on travaille du bout des doigts. Mais à la fin, on ajoute quelques cuillères de lait.
Quelques lignes uniquement de description, c'est dingue.
Et c'est super rapide et on pré-cuit pas les fruits sauf les coins parce que c'est quand même beaucoup plus dur, sinon on aurait du béton à assiette. Donc je pré-cuis les coins avec un tout petit peu d'épices. Et pardon, Émilie Dardenne ne mange pas le cobbler parce qu'il contient du beurre. Je lui ai fait des poires pochées avec un sirop épicé. Lesquelles épices ont servi un petit peu à la pré-cuisson du coin du cobbler?
Qu'est-ce que vous en pensez, Émilie Dardenne?
C'est super. Je ne mange pas trop de fruits cuits d'habitude, mais là, elles sont parfaitement cuites.
Bon, génial. Ouais. Avec encore un petit peu de fermeté?
Oui.
Et j'ai ajouté de la figue parce que c'est important dans ce cobbler que le jus de cuisson des fruits remonte un peu à la surface et fasse un peu comme un petit caramel. Et j'avais peur qu'avec juste les coins et les poires, il n'y ait pas assez de liquide qui remonte.
Mais là, ça a marché.
Ouais, bravo, ouais, Elvira. La super bizarre, bonne nouvelle, c'est que les trois recettes que vous nous avez présentées aujourd'hui sont sur franceinter.fr, à la page On va déguster. Et si l'on veut une vision panoramique de votre cuisine, de vos bricolages culinaires, encore une fois, on peut se tourner vers ce gros bouquin assez épais qui contient 150 recettes dans ma cuisine aux éditions Marabout. On lui souhaite un vif succès auprès de nos auditeurs.
Merci beaucoup.
Et je suis sûr qu'il va cartonner. On est obligé de se quitter. Juste une dernière petite réaction. Est-ce que finalement, il ne faut pas qu'on doute un peu? On a cette réflexion autour de la viande. On peut avoir évidemment ses principes, ses convictions. Mais est-ce que finalement, on n'est pas dans une phase qui prendra plus ou moins de temps et qui correspond à une transformation de notre relation aux protéines carnées, évidemment. Mais est-ce que le doute, justement, n'est pas un moteur et permet de s'orienter vers des solutions alternatives et faire évoluer cette relation? Émilie Dardenne, qui veut réagir?
Je pense qu'on est plus tellement dans la période du doute quand on considère tous les dégâts qui sont produits, notamment par l'élevage industriel. On en revient toujours à cette forme-là.
Pour le coup, l'impact environnemental de l'élevage d'Émilie Janin n'est pas celui d'un élevage industriel.
Ah, il est positif, le sien. Mmh. Il stocke du carbone, il produit de la biodiversité, il traite bien l'eau, on l'a dit tout à l'heure. Il fait de l'alimentation qui nous constitue correctement. Et en plus, apparemment, vu son visage aujourd'hui, il rend les producteurs heureux, cet élevage. Donc pour moi, il a quand même, il est paré de toutes les vertus, en gros. Celui-là, en tout cas. Voilà.
Bon, doute, pas doute. Vous, il n'est plus le temps de douter pour vous, Émilie Dardenne, on l'a compris. Et Émilie Janin, dernier petit mot.
Quand j'ai vu ce modèle en Suède, je me suis dit, c'est sûr que là, je ne doute plus, je veux le faire en France, parce que c'est ce que je veux pour mes animaux. Et donc là, on est content que mes animaux, puis ceux d'autres éleveurs, puissent en bénéficier grâce au bœuf éthique. Et donc voilà, parce que du coup, c'est plus de 150 éleveurs qui vont pouvoir en bénéficier, et je ne sais pas combien d'animaux, donc c'est ça. Donc on prépare pas à avoir la vérité, mais en tout cas, on va mettre tout en œuvre pour faire du mieux possible.
Merci à tous, merci aux deux Émilie, merci Arnaud Daguin, merci Elvira pour ces très très belles recettes, on s'est régalé. Génial, deux livres pour nourrir cette réflexion autour de ces questions. D'abord, le titre de votre essai, Émilie Dardenne, Introduction aux études animales aux presses universitaires de France, c'est bien ça?
C'est pas un essai, c'est un manuel.
C'est un manuel.
C'est à destination des étudiantes et des étudiants qui veulent découvrir les études animales.
Très bien, et je signale aussi En Mutation, c'est une nouvelle revue qui explore de façon générale les questions sociétale, aux éditions Rue de l'Échiquier et coédité par l'Obs. Il y a d'ailleurs un article qui est consacré à votre...
Et on a participé au lancement, oui.
À votre modèle d'abattoir mobile, Émilie Janin. Et le premier numéro porte cette question en couverture. Peut-on être un carnivore éthique? La semaine prochaine, la leçon de cuisine d'une grande dame des fourneaux. Je me tourne vers Elvira Masson car elle la connaît bien, dont la Bible culinaire vient d'être rééditée. André Zana Murat, ça vous dit quelque chose?
Génial.
Voilà. André Zana Murat, Laurent Delmas et Antoine Gerbel seront dans les fauteuils des chroniqueurs à dimanche prochain, si vous avez encore faim.